L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné.
Vous parlez de médias,
vous avez convoqué. Vous avez compris, il fonctionne bien.
Entre les parents de ces
policiers-là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous écoutez Tapage, une émission sur les violences judiciaires. C'est une émission qui passe sur Canal Sud tous les mois, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, de 19h à 20h. Ce mois-ci, on va parler d'un type d'audience particulier, les audiences de maintien en centre de rétention administrative, les CRA. C'est une émission qui va se diviser en trois parties. Je vais commencer par raconter une de ces audiences auxquelles j'ai assisté cette semaine. Ensuite, on va écouter une interview avec Benjamin Francos, qui est souvent avocat de la défense dans ces audiences. Et pour finir, on va écouter une lecture d'un récit de Kunta Kinte qui s'appelle « Comment rater l'avion, stratégie de résistance à l'expulsion ». Et c'est le récit en fait de son arrestation, son enfermement en centre de rétention et puis de son passage devant le juge pour être libéré. Voilà, de ses passages devant le juge pour être libéré. Cette semaine, je suis allée assister à une audience de maintien en centre de rétention. Ce sont des audiences qui se passent au tribunal de Toulouse, juste à côté d'ailleurs de la salle où se passent les comparutions immédiates. La salle est beaucoup plus petite. Dans le public, on était deux personnes. En plus de moi, il y avait une personne qui appartient à une association qui s'appelle le Cercle des Voisins. Les personnes jugées arrivent du centre de rétention de Cornebarieux. Ils sont amenés par la PAF. Ils arrivent par l'entrée du tribunal public. Ils traversent la salle des pas perdus. Ils sont menottés, les mains dans le dos, et poussés en avant chacun par un policier de la PAF. Et ils ne sont démenottés qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur de la salle. À ce moment-là, ils s'assiedent au premier rang et tout autour. La PAF s'installe tout autour. Devant eux, il y a la juge, à côté de la juge, il y a la greffière, et en revanche, il n'y a pas de procureur. Ce qu'il y a, c'est un représentant de la préfecture, parce que c'est lui qui va demander le maintien en centre de rétention. La juge, au début de chaque affaire, se présente à la personne qui comparaît. « Je suis le juge des libertés de la détention. À la fin de cette audience, vous saurez si vous restez au CRA ou pas. » Les personnes, elles arrivent de différents départements, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Orientales ou Ariège. Certains ne parlent pas français, donc il y a des interprètes qui sont présents. Chaque affaire dure très très peu de temps, 5 minutes, peut-être 10 maximum. En fait, c'est d'autant plus court que la personne n'est pas interrogée. On lui laisse la parole quelques secondes à la fin. Ceux qui parlent un peu plus, en revanche, c'est seulement l'avocat ou l'avocate de la défense et le représentant de la préf. Le représentant de la préfecture, enfin, il se lève, il va au pupitre et il lit un document dans lequel il explique pourquoi est-ce que, à son avis, il faut maintenir la personne en rétention. Du coup, il va dire que la préfecture n'a pas eu le temps de procéder à l'expulsion parce qu'elle n'a pas réussi encore à obtenir un laissez-passer consulaire du pays concerné. Il va aussi souvent parler du casier judiciaire et du fait que la personne sorte de prison, qu'elle a commis des troubles à l'ordre public. Voilà, c'est quelque chose qui est souvent évoqué. En face, la défense va essayer de trouver des vices de procédure. Par exemple, que l'interpellation n'est pas légale parce qu'elle a été effectuée par des policiers municipaux qui ne sont pas habilités à procéder à des contrôles d'identité. Ou alors qu'il y a un problème d'interprète. Par exemple, là, il y avait une personne qui ne parlait pas très bien français et qui ne le lisait pas. Et elle disait, bah, en fait, il a été interrogé sans interprète en garde à vue. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pu comprendre et exercer correctement ses droits. Ce qui veut dire que la garde à vue devrait être annulée et donc cette audience quoi, devrait être nulle et non avenue. Mais il n'y a pas vraiment de débat entre les deux. Par exemple, il y avait une avocate qui signalait la vulnérabilité de son client. Effectivement, il avait perdu un œil en Italie à cause d'un coup de couteau. Le représentant de la préfecture a répondu que sa vulnérabilité a été prise en compte par la préfecture qui a considéré que ça n'était pas un obstacle à sa rétention. Comme on l'a dit, la juge donne la parole au prévenu pour quelques derniers mots s'il le souhaite. Mais à ce moment-là, ce qui l'intéresse particulièrement et la chose sur laquelle elle pose des questions, c'est de savoir si les personnes veulent rester en France ou pas. Par exemple, il y a un homme qui a dit qu'il voulait juste sortir pour pouvoir faire sa demande d'asile. Elle a répondu « J'en déduis que vous voulez rester en France ». Après, la juge annonce que le résultat sera donné plus tard dans l'après-midi. À un moment, il y a une des avocates qui voulait s'entretenir avec son client. Et elle a dû le faire dans le sas en verre qui est à l'entrée de la salle d'audience. Apparemment parce que son client n'a pas le droit de sortir du tout de cette salle. Même pour s'entretenir avec son avocate, par exemple, dans la salle des pas perdus, et il n'y a pas du tout de salle qui est prévue pour ça. Ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes qui comparaissaient, il y avait 12 personnes qui comparaissaient. C'était apparemment une audience particulièrement importante. D'habitude, on est plutôt autour de 6 ou 8 personnes, bon, ce qui est déjà un chiffre très gros. Mais là, ce qui s'est passé, du coup, c'est que l'audience a été dédoublée. Après une première audience qui a duré environ 3 quarts d'heure, les 6 premières personnes ont été emmenées par la police aux frontières et ramenées au centre de rétention de Cornebarieux. Et il y a 6 autres personnes qui sont arrivées. Le juge a changé, la juge a été remplacée par une autre personne, et 6 autres personnes ont été jugées. En revanche, le résultat, il a annoncé que plusieurs heures plus tard. Ce qui veut dire que voilà, ces 12 personnes ont été ramenées au centre de rétention pour quelques heures, puis ramenées au tribunal pour entendre la décision. La décision qui a été dans 10 cas sur 12, le maintien de l'enfermement en centre de rétention. Et sans aucune explication. Des motivations écrites seront transmises aux différents avocats et avocates, mais sur le moment, à l'annonce du résultat, il n'y a absolument rien qui est dit. Du coup, on a aussi du mal à savoir sur le moment, juste en écoutant l'audience, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, que deux de ces personnes sont libérées et pas les autres. Sachant qu'après, elles auront 24 heures pour faire appel, ce qui est extrêmement court, s'ils désirent faire appel. À y assister comme ça dans le public, ce sont des audiences où il y a des choses très techniques qui sont difficiles à comprendre. Et du coup, on va enchaîner avec une interview de Benjamin Francos qui va nous expliquer un certain nombre de points sur ce type d'audience.
Salut Benjamin, est-ce que tu voudrais bien en quelques mots te présenter, s'il te plaît ?
Salut, moi je suis Benjamin Francos, je suis avocat depuis 10 ans bientôt à Toulouse. Je fais beaucoup de droit des étrangers, c'est ma matière principale. Après, je travaille beaucoup aussi sur les questions de squat et dernièrement d'occupation et d'expulsion de terrain de bidonville. Mais le droit des étrangers, c'est un peu le cœur de mon travail. Voilà.
Du coup, tu dois régulièrement défendre des personnes retenues qui comparaissent devant le juge des libertés et de la détention, qui est l'audience que je vous ai décrite précédemment. Est-ce que tu peux, avant toute chose, nous expliquer comment est-ce qu'on arrive en CRA, en centre de rétention ?
Oui, en fait, il y a plein de configurations dans lesquelles la personne elle peut se retrouver placée au CRA. Une des tendances là, majeures et qu'on voit s'accélérer depuis quelques années, c'est la question des sortants de prison, puisqu'on est avec quand même des gouvernements qui successivement mettent la question de l'ordre public et le lien avec les étrangers au centre de leur politique en matière de gestion migratoire, etc. Donc on a un ciblage des personnes étrangères détenues qui, à la fin de leur peine, au moment de la levée d'écrou, en fait, se voient notifier des décisions de placement au centre de rétention et qui, du coup, basculent de l'établissement pénitentiaire vers le centre de rétention. Ça représente environ, je crois, 25% à peu près du nombre de personnes placées annuellement sur l'ensemble du territoire.
Est-ce que je peux tout de suite te poser une question là-dessus ? Est-ce que ça veut dire que parmi quand les sortants de prison sont placés en CRA à leur sortie, est-ce que c'est uniquement ceux qui ont eu pour peine complémentaire une interdiction du territoire français, ou est-ce que ce ne sont pas les seuls ?
En fait, il faut vraiment comprendre que donc, quand il y a une interdiction judiciaire du territoire, hein, qui est une peine complémentaire, comme tu dis, le préfet il est tenu en fait par la loi de mettre en œuvre cette décision de justice, et donc la personne elle est effectivement placée au centre de rétention. À l'issue de sa peine, mais ça concerne aussi en réalité tout un tas de gens qui n'ont pas d'interdiction judiciaire du territoire, mais pour lesquels la préfecture va aller mobiliser ce concept de menace à l'ordre public en s'appuyant sur la condamnation pour estimer que la personne, du fait qu'elle représente prétendument une menace pour l'ordre public, doit être éloignée du territoire, doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou parfois d'un arrêté d'expulsion. Et donc on a comme un surajout à la peine pénale d'une prise de position de l'administration sur la menace que représenterait la personne. Et ça se traduit par des décisions supplémentaires qui vont être une obligation de quitter le territoire ou un arrêté d'expulsion, qui elles-mêmes vont être mises en œuvre par le biais d'un placement en rétention.
Et ça veut dire quand même qu'il y a une collaboration raisonnablement étroite entre les services de l'administration pénitentiaire et ceux de la préfecture.
Oui, absolument. Ouais, les détenus étrangers qui arrivent en fin de peine, sauf erreur, la préfecture elle est informée par l'administration pénitentiaire de la fin de l'exécution de la peine. Et du coup, elle est invitée par cette information à prendre les dispositions nécessaires. Donc ce qui se passe, c'est que... la préfecture, elle va détacher ou missionner une équipe de la PAF, de la police aux frontières, en détention pour aller faire une audition de la personne, recueillir ses observations, recueillir aussi en fait des informations qui vont permettre de procéder à son identification si elle n'a pas de passeport, parce que l'éloignement, il est conditionné au fait d'avoir soit un passeport valide, soit un laissez-passer du pays d'origine. Et pour permettre cette identification, eh ben, il faut aller recueillir auprès de la personne des informations. Donc c'est un interrogatoire qui en fait nourrit l'administration dans son besoin de renseignement, qui n'est pas en vrai un interrogatoire qui permet une authentique prise en compte de la situation de la personne sur ses attaches en France, son parcours au-delà de la peine, mais qui va nourrir en fait le processus d'éloignement. Et donc cet interrogatoire, cette audition est en fait, la préfecture va... traduire ces informations-là dans une décision administrative qui sera une décision d'éloignement et de placement au centre de rétention.
Et est-ce que les personnes enfermées sont accompagnées par un avocat ou une avocate dans l'interrogatoire avec la PAF ?
Non, jamais. Enfin, pas à ma connaissance. Comme beaucoup, si ce n'est toutes les personnes détenues, elles sont quand même assez souvent, si ce n'est constamment, à la merci quand même des agissements administratifs. Et c'est qu'après coup, éventuellement, qu'on peut rattraper certaines choses. Mais là, on est dans un processus vraiment assez particulier où c'est une démarche administrative, mais qui se déroule dans un univers pénal, dans un univers carcéral, avec des gens qui, du coup, sont invités à produire des observations, alors qu'ils n'ont pas la possibilité de s'entretenir au préalable avec un avocat, qu'ils ne peuvent que très difficilement contacter parce qu'ils ont, comme on sait, pas accès à un certain nombre d'outils de communication, que s'ils devaient écrire à un avocat, il faudrait que l'avocat sollicite un permis pour venir le rencontrer, ce qui n'est pas forcément acquis dans la mesure où le permis, du coup, il n'est pas en lien avec la situation pénale, mais uniquement avec la situation administrative. Bon, ça pose tout un tas de questions qui font qu'en définitive, les gens se retrouvent seuls face à ça, et souvent, soit... ne répondent pas, soit répondent mais sans avoir été briefés au préalable sur ce qui peut être pertinent de dire aussi dans ces espaces-là. Et donc on a des gens qui sont seuls face à l'outil administratif qui vient les justement sous couvert de prise en compte de leur situation, en fait vient se nourrir d'informations qui vont faciliter l'éloignement après.
Du coup, ce que ça veut dire de ce que tu me dis, c'est que les personnes qui ont été condamnées pénalement, par exemple en comparution immédiate à une peine de 3 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ne mettront pas un pied hors de la prison à la fin de leur peine. Ils vont directement, il va y avoir la police aux frontières, la PAF, qui va directement venir les chercher pour les emmener immédiatement au centre de rétention, sans qu'ils aient mis un pied dehors.
Alors ça pouvait être le cas avant, et quand je dis avant, c'est un avant d'il y a longtemps, mais du fait de cette paranoïa sur la question de l'ordre public, ça se voit de moins en moins. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, il y a une insistance depuis un certain nombre d'années, hein, qui remonte évidemment à avant Retailleau et à avant Darmanin, mais principalement quand même depuis ces deux ministres, à être intraitable sur cette question-là, et donc effectivement à qui invite donc les préfets à pousser vers un placement en CRA tout étranger détenu qui arrivera en fin de peine. Donc effectivement, ces gens-là qui arrivent au bout de leur peine d'incarcération vont faire l'objet à la sortie. Donc il y a une équipe de la PAF qui va venir au moment de la levée d'écrou et qui va prendre le billet de sortie, qui va faire les formalités de levée d'écrou et puis qui va mettre la main sur cette personne et en fait la déplacer de Seyss ou de Muret, plus souvent de Seyss, jusqu'au centre de rétention à Corne-Barieux. Et donc cette personne, elle passe directement de... une maison d'arrêt, au fourgon de la PAF, au centre de rétention.
Du coup, ça, c'était la première manière d'être envoyé au centre de rétention. La deuxième, j'imagine que c'est à la suite d'une interpellation.
Oui, tout à fait. Et ces interpellations, elles peuvent avoir lieu soit dans un contexte de flagrant délit où la police surprend quelqu'un en train de commettre une infraction et en fait se rend compte au cours de l'enquête que cette personne, par ailleurs, n'a pas de titre de séjour et donc va se mettre en place parallèlement à l'enquête pénale, la partie investigation administrative, pour que la préfecture, si elle le souhaite, prenne les mesures d'éloignement et de placement en rétention, soit ces arrestations, elles peuvent avoir lieu dans le cadre de contrôles d'identité qui sont pratiqués après réquisition du procureur de la République, qui du coup va déterminer un périmètre dans des zones dans la ville, à l'intérieur duquel des contrôles peuvent être opérés pendant une certaine période de temps, qui est pareil, qui est limitée hein, par le code de procédure pénale. Et dans le cadre de ce périmètre et de cette période de temps, en fait, toute personne à l'intérieur de cette bulle spatio-temporelle peut faire l'objet d'un contrôle d'identité. Ça, c'est la théorie, la pratique. On sait très bien que la police est traversée par un racisme qui est à la fois systémique et endémique. Et du coup, on sait que les contrôles vont être majoritairement dirigés à l'encontre de personnes identifiées comme présentant un profil à risque, si on reprend des termes institutionnels, quoi. Et donc, ça va être essentiellement des personnes racisées, des personnes de classe populaire, qui vont du coup subir, en réalité, doublement la possibilité de ces contrôles. Il y a une autre particularité de ces réquisitions, sans peut-être rentrer trop dans le détail, c'est que normalement, elles doivent être motivées. C'est-à-dire que le procureur doit expliquer pourquoi, sur cette zone, il autorise des contrôles, indépendamment du comportement des gens, et il doit le justifier par rapport au nombre d'infractions constatées dans les semaines précédentes. Sauf que ce qu'on constate, c'est que souvent, la situation administrative des gens qui sont sans papier et qui terminent au centre de rétention, elle est découverte de manière incidente au contrôle d'identité qui est autorisé. C'est-à-dire qu'on va faire des contrôles un peu à l'aveugle, prétendument, hein, si on met de côté, sans vraiment la mettre de côté, la question du contrôle au faciès, mais théoriquement, on va faire des contrôles à l'aveugle. Et puis, c'est dans le cadre de ces contrôles qu'en fait va émerger la question de l'absence de titre de séjour, qui va du coup non pas entraîner un placement en garde à vue lié à la découverte d'une infraction que ces contrôles étaient censés rechercher, mais va déclencher une retenue pour vérification du droit au séjour, qui est une autre mesure de police, qui n'est pas une garde à vue, mais qui est une mesure spécifique à la question de la vérification du droit de la personne qui est identifiée comme étrangère à séjourner en France.
Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Zone de contrôle, une personne est contrôlée, on découvre incidemment, comme tu dis, que la personne n'a pas de titre de séjour. Elle est emmenée, j'ai oublié comment tu appelles ça ?
En retenue.
En retenue, elle est emmenée en retenue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que, du coup, à ce moment-là, on la laisse partir, mais parallèlement, la police envoie au service de la préfecture une notification et qu'à ce moment-là, derrière, la préfecture revient avec une OQTF ? C'est ce genre de choses qui se passe ?
Alors, dans le cadre d'une retenue, en fait, la personne, elle est interpellée. C'est-à-dire que, enfin, c'est des différences juridiques, mais pratiquement parlant, la personne est embarquée par la police, est amenée au commissariat. Alors, elle n'est pas censée être placée dans une cellule où il y a d'autres personnes qui sont gardées à vue, hein, parce qu'ils ne veulent pas... ils essaient de maintenir l'apparence, de ne pas tout mélanger. Donc elle est placée au commissariat. Elle n'est pas libre de quitter le commissariat. Elle est entre les mains de la police. Et s'ouvre à ce moment-là une période de 24 heures, ce qui nous fait aussi un parallèle avec la garde à vue, une période de 24 heures pendant laquelle la police va essayer de procéder à l'identification de la personne si elle n'a pas de documents qui permettent d'attester de son identité. Donc elle va faire des auditions, soumettre la personne à des relevés d'empreintes, à des vérifications de fichiers, vérifier notamment si, à partir de l'identité déclarée, il y a déjà des mesures administratives actives, des OQTF existantes, des obligations de quitter le territoire existantes et en cours. Et elle va prendre à tâche la police avec la préfecture. Donc cette prise de contact, elle se fait... Donc, je passe sur les détails, mais comme c'est une mesure privative de liberté, le parquet est censé être informé, mais en fait, il est informé formellement, il n'en fait rien, il n'exerce pas de contrôle après cette information. Et la préfecture va être contactée plus ou moins tôt, en fait, dans cette phase-là, par la police. Alors ça peut être soit par un coup de téléphone au service des étrangers, soit par un mail qui va du coup permettre à la préfecture d'être informée que telle personne, soit avec une identité établie, soit X se disant, fait l'objet d'une mesure de retenue et que la police interroge du coup la préfecture sur la marche à suivre et la position de l'administration vis-à-vis de cette personne. Et c'est dans ce cadre-là que va y avoir des échanges où la préfecture, à partir des informations recueillies par la police, va vérifier elle aussi de son côté si c'est une personne qui a un titre de séjour en cours et qu'il ne l'avait peut-être simplement pas sur elle au moment où elle a été arrêtée, ou si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de demande, ou si c'est quelqu'un qui a fait une demande et qui a été rejeté. Et dans ce cas-là, elle va prendre une mesure d'éloignement qui sera adressée à la police en retour et signifiée à la personne, notifiée à la personne par la police elle-même. Et donc cette mesure d'éloignement, qui va prendre la forme d'une obligation de quitter le territoire, elle peut être accompagnée de ce qu'on appelle une mesure de contrainte qui va se surajouter. Et cette mesure de contrainte, ça peut être soit une assignation à résidence, si la personne elle a un domicile, elle a un passeport qui est en cours de validité, etc., soit un placement en rétention. Donc en fait, à l'issue d'une retenue, il y a plusieurs options, quoi. Soit la personne elle sort libre sans rien parce qu'en fait elle avait un droit au séjour et que ça n'a pas été mis en évidence tout de suite, ce qui est quand même pas souvent le cas. Soit elle fait l'objet d'une OQTF sèche, c'est-à-dire elle sort et y a, c'est tout, elle sort juste avec une OQTF. Soit elle sort avec une OQTF et une mesure de contrainte qui peut être du coup l'assignation ou le placement.
Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de sortir avec une OQTF sèche ou le fait de sortir avec une OQTF et une privation de liberté au CRA? Quels sont les critères, en quelque sorte, de la police et de la préfecture?
Alors, en termes de critères, la préfecture, j'ai l'impression que des fois, elle est sur des choses assez pragmatiques, ça lui arrive, de l'ordre de... on a déjà beaucoup placé au CRA dans les jours précédents, on ne va pas se surajouter, parce qu'en fait, une fois que la personne est placée au CRA, la préfecture, elle doit suivre le dossier, faire une requête au juge pour la prolongation, donc ça entraîne... Je ne les plains pas en disant ça, mais ça entraîne du travail pour eux. Parfois, j'imagine que c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que... il y a aussi des considérations après tout à fait légales sur la question des mesures de contrainte, hein, mais là c'est plus la différence entre l'assignation à résidence et le placement, c'est que l'assignation à résidence, elle va être possible si la personne en fait présente ce qu'on appelle, mais c'est un terme qui est assez commun avec le pénal, des garanties de représentation, voilà. Que les fameuses garanties de représentation. Et en matière s'agissant des personnes étrangères, ces garanties de représentation, les deux principales, c'est l'existence d'un passeport en cours de validité, qui en fait assure à la préfecture la possibilité de réserver un vol sans avoir besoin de procéder à une identification consulaire, et l'existence d'un domicile stable qui permet d'assigner la personne et de connaître son adresse pour le moment où elle décidera, la préfecture, de procéder à l'éloignement effectif. Ça, c'est les deux choses principales. Après, il y a tout un tas de considérations liées à la présence d'enfants scolarisés, à l'existence d'une situation médicale qui viendrait faire obstacle à un placement en rétention, qui sont des choses qui vont être prises en compte, mais vraiment le cœur du sujet, c'est le passeport, l'adresse. Et puis, il y a un point aussi qui revient souvent, c'est les déclarations de la personne, parce qu'il y a cette question toujours un petit peu... vicieuse quelque part, qui est adressée aux gens quand ils sont en retenue, c'est ça peut prendre différentes formes, mais schématiquement l'idée c'est est-ce que vous allez vous soumettre à l'obligation de quitter le territoire, est-ce que vous avez l'intention de repartir, et les gens de bonne foi disent plutôt non, quoi, c'est-à-dire que s'ils sont venus c'est pas pour accepter de repartir comme ça, ce qui veut pas forcément dire qu'ils vont prendre la fuite, c'est juste est-ce que vous êtes d'accord pour repartir. Les gens sont pas forcément d'accord dans l'idée de repartir, mais cette réponse elle est souvent retournée contre les gens pour venir caractériser l'existence d'un risque de fuite sur le terrain de ah bah regardez, il a dit qu'il ne voulait pas partir, et donc s'il dit qu'il ne veut pas repartir, c'est qu'il ne va pas respecter les décisions de l'administration, et donc ça justifie de l'enfermer et de ne pas le placer sous assignation à résidence.
Ok. Du coup, là, on a décrit deux manières d'être envoyé en centre de rétention. La première étant directement à la levée d'écrou et la seconde étant à la suite d'une interpellation. C'est les deux principales choses. Est-ce qu'il existe d'autres manières ou plutôt pas ?
Oui, de mon point de vue, c'est les deux entrées principales, sachant que sans retenue, c'est aussi possible, par exemple, que sur une enquête pénale, une personne étrangère sans titre soit placée en garde à vue, mais que le procureur, en fait, décide de laisser la main à l'administration, c'est-à-dire, en fait, privilégie la possibilité d'un éloignement du territoire à l'organisation de poursuites devant un tribunal. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est une autre voie d'entrée. Ça procède d'une interpellation, donc ça rejoint ce qu'on se disait, mais c'est une interpellation qui a effectivement abouti à une garde à vue parce qu'il y avait des questions pénales en jeu, qui peuvent finir par être classées. Hein. Par ailleurs, le parquet peut classer parce qu'il n'y a pas d'infraction, mais laisser la main à l'administration, mais peut aussi constater que l'infraction est caractérisée, remettre une convocation à la personne pour être jugée à juge unique 6 ou 8 mois plus tard. Mais du coup, quand même passer la main à la préfecture, ce qui fait que la personne va faire l'objet d'un processus d'éloignement alors qu'elle est convoquée devant le juge pénal 6 ou 8 mois plus tard et qu'elle, du coup, elle sera peut-être pas là pour se défendre.
Est-ce que pendant la retenue au commissariat, est-ce que les personnes là sont assistées d'un avocat ou d'une avocate ?
Elles peuvent l'être. C'est comme en garde à vue. Enfin, les droits sont assez similaires. La personne, elle peut demander un avocat, un interprète, un examen médical, faire contacter des proches, se faire apporter aussi des documents de nature à justifier de sa situation. Et bon, quand même majoritairement, j'ai l'impression, moi, de ce que je vois, les gens ne sollicitent pas d'avocat en retenue. Ce que nous décrivent les gens, c'est quand même beaucoup, j'ai l'impression, une rhétorique policière qui consiste à dire que ça va aller vite et que la personne va ressortir et qu'elle n'a pas besoin d'avocat. Bon, des choses que l'on peut connaître par ailleurs aussi hein, dans les gardes à vue, hein, d'incitation à ne pas faire valoir ses droits parce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Évidemment, c'est jamais une bonne idée de ne pas faire valoir ses droits quand on est entre les mains de la police. Ne serait-ce que pour ne pas leur faciliter le travail. C'est-à-dire, je ne me fais pas de grandes illusions sur le rôle de l'avocat dans ces espaces-là, mais il a quand même ce mérite de bloquer parfois des processus qui iraient beaucoup plus vite sinon, et puis de limiter certains comportements, puisque du coup, il y a un regard extérieur qui se joue à cet endroit-là. Toujours est-il que sur les personnes en retenue, c'est assez rare d'avoir des gens. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc on a beaucoup de gens qui, en fait, sont auditionnés sans avocat, avec des interprètes, mais sans avocat.
Okay. Une fois que la préfecture a décidé d'envoyer une personne en centre de rétention, si je crois savoir qu'en fait elle a le droit de le faire pendant 4 jours sans autre forme de procès, j'ai envie de dire. En revanche, au bout de 4 jours, si elle n'a pas réussi à éloigner la personne, comme ils disent, il va falloir prolonger le séjour en centre de rétention, et c'est là qu'interviennent les audiences JLD dont on a parlé en début d'émission.
Ouais, tout à fait. En fait, au moment où la préfecture place en rétention, son arrêté de placement, il est valable pendant 4 jours. Ça, c'est une limitation constitutionnelle. C'est le Conseil constitutionnel qui autorise, qui limite le fait qu'une personne puisse être privée de liberté sur la base d'une décision administrative sans qu'un juge, en fait, autorise cette privation. Et donc, la limite, le législateur a fixé 4 jours. C'était 48 heures jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Là, maintenant, c'est 4 jours. Et effectivement, au bout de ces 4 jours, comme tu le dis, si la préfecture n'a pas pu éloigner, elle est obligée, là, de saisir un juge judiciaire, magistrat du siège du tribunal judiciaire, comme on dit a priori maintenant, et plus juge des libertés de la détention. C'est un changement terminologique qui va avoir peu de conséquences pratiques pour les gens, comme souvent. Et du coup, là, c'est le juge du coup qui va se prononcer sur le fait de savoir si les conditions pour la prolongation de l'enfermement sont réunies ou pas.
Parlons de la question de la prolongation, donc on peut prolonger le séjour d'une personne à 4 reprises, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences entre ces différents types de prolongation?
Ouais.
Et après on parlera éventuellement du type d'argument mobilisé par la défense pour essayer de faire libérer les personnes.
Alors la première prolongation, en fait, c'est la prolongation dans laquelle il y a le plus gros enjeu en termes de de plaidoirie, c'est un peu difficile de parler des prolongations sans évoquer en même temps un petit peu qu'est-ce qui se joue aussi pour les gens en termes de défense, parce qu'en fait dans cette première prolongation va se discuter la question de la légalité de l'arrestation, de l'interpellation, du respect des droits de la personne pendant toute cette période de privation de liberté, des conditions éventuelles de la prolongation, c'est-à-dire est-ce que effectivement la préfecture justifie qu'elle n'a pas été en mesure d'éloigner, qu'elle a fait des diligences pour pouvoir éloigner, etc. Et en même temps, s'ajoute à ça le propre recours de la personne, puisque toutes ces questions-là que je viens d'évoquer, en fait, sont discutées parce que la préfecture sollicite la prolongation. Mais parallèlement, la personne, souvent, elle fait elle-même un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Et donc cette audience, c'est une audience qui statue en même temps sur deux demandes différentes, qui sont à la fois la demande de la préfecture de prolonger et la demande de la personne retenue de faire constater que l'arrêté de placement en rétention, qui est l'aboutissement de la procédure policière et administrative, que cet arrêté en fait est illégal pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec l'illégalité de l'arrestation. Ça peut être simplement la personne qui a signé cet arrêté n'avait pas de délégation de compétences, donc elle ne pouvait pas elle-même signer cet arrêté. Donc puisque l'arrêté est irrégulier, illégal, la rétention s'arrête. Même si les autres conditions pourraient être remplies par ailleurs. Donc en fait, il y a deux... cette audience, elle va juger deux requêtes différentes, celle de la préfecture et celle de la personne. Donc à l'issue de ça, si on se met dans l'hypothèse pessimiste, le juge va prolonger la rétention pour une période de 26 jours.
26 jours, la première prolongation,
c'est 26 jours. C'est ça, c'est 26 jours, ce qui nous amène à 30 jours entre les 4 premiers jours de la préfecture, puis cette première prolongation de 26. Au terme de ces 26 jours, s'il n'y a pas eu d'éloignement, la préfecture peut saisir à nouveau le JLD pour que la personne soit maintenue au centre de rétention. Et donc dans ce cas-là, s'il obtient cette deuxième prolongation, la prolongation est prononcée pour 30 jours, ce qui nous amène à 60 jours. Et le code prévoit une troisième et une quatrième prolongation qui sont possibles à titre exceptionnel. Donc les conditions sont plus dures pour la préfecture parce qu'il faut qu'elle établisse non seulement qu'elle a vocation à obtenir un laissez-passer consulaire dans les jours qui vont suivre, donc vraiment c'est imminent, mais en plus que la personne a manifesté un comportement d'obstruction, enfin voilà, schématiquement c'est comme ça que les choses se pensent. Et donc ces troisième et quatrième prolongations, elles ne peuvent être prononcées qu'à titre exceptionnel, et elles sont chacune d'une durée de 15 jours. Donc si on fait 4 plus 26 plus 30 plus 15 plus 15, on arrive à 90 jours au total.
Ce qui est considérable.
Ouais.
Dans l'audience que j'ai été voir cette semaine, j'ai entendu souvent mobiliser aussi des questions d'atteinte à l'ordre public pour la préfecture comme motif de maintien en... Est-ce que c'est ça, grave danger, je ne sais pas.
Oui.
Motif de maintien, de prolongation de séjour en CRA.
On avait ces discussions avant, puisque jusque récemment, en fait... Il n'était pas possible de fonder un placement en rétention sur la question de la menace à l'ordre public. La préfecture le faisait, mais en tout cas le plaidait sans l'écrire toujours. Parfois l'écrivait, ce qui était contraire en fait à la position de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dit bien que la rétention, c'est pas une mesure de prévention de l'ordre public, c'est une mesure destinée à mettre en œuvre un éloignement, et qu'on ne maintient pas une personne en rétention pour des questions de prévention de l'ordre public, mais parce qu'on a des raisons de poursuivre son éloignement et qu'il faut pouvoir remplir les conditions de fixées par la loi pour un maintien en rétention lié à l'éloignement et pas à la prévention de l'ordre public. La loi a évolué de ce point de vue, puisque maintenant le motif d'ordre public est prévu, me semble-t-il, sur la deuxième prolongation, ça sera à vérifier. Donc il y a quand même une grosse difficulté, et là on voit à quel point la focalisation du ministère de l'Intérieur sur la question de l'ordre public, dans un discours assez fascisant là-dessus, vient en fait contrarier même les positions de la Cour de justice de l'Union sur en fait c'est quoi l'objectif d'une mesure de rétention administrative. Ça n'est pas de la prévention de l'ordre public, c'est de mener à terme un éloignement. Et à voir, je ne sais pas si cette question-là a été posée, si cette modification a été contestée, mais me semble-t-il, si ça n'a pas été le cas, il faudra le faire.
Parmi les arguments soulevés par les avocats et avocates que j'ai vus cette semaine, il y avait aussi la question de la vulnérabilité.
Oui.
Des personnes qui avaient des maladies, une personne qui avait une mutilation par exemple, à ce titre-là, elle demandait que les patients soient relâchés du CRA, sachant qu'en face, la réponse du représentant de la préfecture était une réponse plutôt robotisée, en type oui, la préfecture a bien réalisé que monsieur avait telle mutilation et en a tenu compte. Mais juge que ça n'est pas un empêchement à son maintien en centre de rétention.
Oui, parce qu'en fait, quand la préfecture prend un arrêté de placement en rétention, elle doit procéder préalablement à un examen de la vulnérabilité de la personne. Sinon, son arrêté est entaché d'illégalité. Du coup, la personne, dans son recours, pourra le faire valoir, ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais en fait, c'est très formel. C'est-à-dire que, schématiquement, cet examen de vulnérabilité, il prend la forme d'une question au procès-verbal de police. D'une ligne assez stéréotypée dans l'arrêté lui-même, et ça va en général suffire à couvrir la préfecture. Ce moyen de défense, il va essayer en fait de mettre en lumière que cet examen, il a été inexistant ou insuffisant ou erroné sur la réalité de la vulnérabilité de la personne, pour des raisons médicales, pour des raisons aussi de liens familiaux parfois. Alors on serait plus sur la vie privée familiale, mais qui va aussi être prise en compte en fait, ça, sur la question du placement. Mais ces questions-là vont venir aussi. Et la préfecture, effectivement, sa position, c'est toujours de dire, de toute façon, le représentant de la préfecture à l'audience est là pour défendre l'idée du maintien et de la prolongation de la rétention. Donc eux, ils nient à 99% des cas tout en bloc. Ça leur arrive de faire preuve d'une honnêteté qui les trahit en constatant que la procédure a été tellement malmenée par la police que des fois c'est indéfendable et que du coup ils disent bon, moi je fais pas d'observation sur ce dossier, je laisse le tribunal apprécier, et bon, en général voilà. Mais sinon, en dehors de ces hypothèses assez rares, c'est des gens qui campent sur leur position de dire il n'y a aucun problème avec cette décision, tout va bien, y compris contre l'évidence quoi. L'autre argument que la préfecture mobilise, c'est qu'il y a une unité médicale au CRA à laquelle les gens pourraient avoir accès, et que du coup certes la personne est malade, certes la personne a un handicap, mais tout ça pourrait être parfaitement pris en charge dans le cadre du dispositif médical du centre de rétention. Quand on sait comment fonctionne cette unité médicale, comment se comporte le médecin du centre de rétention qui a été mis en cause par des associations toulousaines, par l'ADE, me semble-t-il, par la CIMAD, du fait justement de l'exercice de ces missions à minima, pour le dire le plus poliment possible, on a quand même de très très sérieuses raisons de penser que les gens ont en fait un accès médical assez catastrophique au centre de rétention, quoi. Donc considérer qu'ils pourront bénéficier là-bas du nécessaire pour les pathologies qui sont identifiées est assez de mauvaise foi.
Ce que j'ai beaucoup entendu à l'audience de début de semaine, c'est des défenses qui disaient « Regardez, lors de la première prolongation, la préfecture n'a fait que deux diligences, c'est-à-dire deux courriers, par exemple, auprès de l'autorité consulaire algérienne. C'est très peu. Du coup, il ne faut pas lui accorder un délai supplémentaire. » Alors, c'était absolument pas dit comme ça, mais il ne faut pas lui accorder un délai supplémentaire étant donné que la préfecture n'a pas suffisamment bien utilisé le premier délai de 26 jours qui lui était accordé. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un type de défense habituel ?
Ouais, c'est très habituel, parce qu'en fait, le code de l'entrée et du séjour des étrangers, le CESEDA, il prévoit de manière très claire, et depuis longtemps, c'est pas lié là aux dernières réformes, il prévoit que le placement en rétention ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l'éloignement, et que l'administration doit conduire toute diligence utile à cet effet. Et donc, le juge, il a un pouvoir de contrôle sur les diligences qui sont conduites par l'administration pour éviter que le placement en rétention, en réalité, stagne en quelque sorte. C'est-à-dire que la personne soit privée de liberté sans que l'administration fasse le nécessaire pour que cette privation de liberté soit la plus brève possible. C'est ça l'enjeu. Et ce qu'on soulève souvent en défense, c'est de dire, alors ça marche plus ou moins bien selon les étapes et selon le point où on en est de la prolongation. Typiquement, sur une première prolongation, c'est compliqué de faire des griefs de ce type à la préfecture, mais ça peut parfois, dans certains cadres. Mais l'idée, c'est de dire, l'administration, en ne faisant pas son boulot, qui est imposé par la loi, qui est de faire le nécessaire pour que cette personne soit privée de liberté le moins longtemps possible et que son éloignement soit effectif. Donc en fait, on se retrouve à critiquer l'administration sur son manque d'efficacité. Et c'est ça qui est un peu politiquement paradoxal. Mais la réalité, c'est que si le juge considère qu'effectivement, la préfecture ne fait pas les diligences nécessaires pour l'éloignement, eh ben, la rétention s'arrête. Puisque l'idée, c'est que au-delà de 4 jours maintenant... c'est un juge judiciaire qui permet une privation de liberté pour que l'administration procède à l'éloignement. Mais si l'administration ne remplit pas, si on veut formuler ça comme ça, ne remplit pas sa part du contrat, à savoir se bouger pour que la personne soit reconnue par son consulat, etc., il n'y a pas de raison de maintenir cette personne au centre de rétention. Et la préfecture, du coup, peut très bien, dans ces conditions-là, décider d'assigner la personne à résidence si elle est libérée par le juge et poursuivre ses diligences dans un autre cadre. Mais comme on est en matière de privation de liberté, effectivement, la question des diligences, c'est souvent un enjeu central. Ouais.
Sur la possibilité de faire appel, comment est-ce que ça se passe ?
Eh bien, la possibilité de faire appel, oui, elle est prévue. Y a un délai de 24 heures. Pour interjeter appel. Donc ça, c'est très bref. Et l'audience devant la cour d'appel reprend en réalité l'ensemble du dossier. Donc l'ensemble du dossier tel que l'avocat ou la personne, si elle fait appel seule, parce qu'elle n'est pas obligée de le faire avec un avocat, décide de le reprendre dans le cadre de son appel. Parce qu'en fait, la cour, elle est saisie par un acte d'appel qui doit être motivé. Et la cour va être saisie des points contenus dans l'acte d'appel. Donc il y a des choses qui peuvent être abandonnées, par exemple parce que la préfecture a fourni finalement les justificatifs nécessaires qui font que le moyen de défense n'est plus pertinent, et d'autres qui vont être maintenus. Et donc le juge d'appel va se prononcer sur ce dont il est saisi.
Il y a des rumeurs là qui courent sur le fait que serait construit à côté du centre de rétention une salle de visioconférence en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire que ce serait pas toute une salle d'audience qui serait construite juste à côté du centre de rétention, mais juste une salle avec une caméra où seraient installées les personnes retenues qui seraient là, qui passeraient là en visio pendant que l'audience et le tribunal se réuniraient toujours au tribunal de Toulouse. Mmh.
Ouais, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. C'est une menace qui pèse et face à laquelle on essaye, nous, de s'opposer avec les moyens qu'on a. Hein. Puisque, évidemment, c'est des décisions qui nous échappent dans leur mise en œuvre, enfin, dans le processus. En tout cas, on n'est pas consulté. On n'a pas trop notre mot à dire de notre place d'avocat des personnes étrangères. Mais oui, c'est une réalité à laquelle on fait face depuis un moment, en tout cas une menace à laquelle on fait face depuis un moment. Il y a des contraintes qui pèsent sur la possibilité d'organiser des visio-audiences comme ça. Bon, je pense qu'au pénal, c'est des choses qu'on connaît. Hein. La question de la visio, elle est quand même très présente. Il y a eu un certain nombre de contestations, de QPC qui ont été posées sur ce sujet-là. En droit des étrangers, il y a aussi des prises de position qui ont été faites de la part de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, sur la question de l'organisation d'audiences soit délocalisées au centre de rétention, soit de la visio-audience. L'enjeu étant que, en fait, puisque le centre de rétention, il est sous la main du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on ne peut pas organiser une audience qui relèverait du ministère de la Justice dans les locaux du ministère de l'Intérieur, d'un point de vue de la théorie de l'apparence, qui est cette idée de l'impartialité objective, c'est-à-dire ce qu'on perçoit indépendamment des biais du juge, mais de l'impartialité objective, donc de l'apparence de la justice. Organiser une audience dans des locaux qui appartiennent à la police et au ministère de l'Intérieur, c'est pas possible. Donc il faut que cette audience, elle se déroule dans une annexe qui factuellement va être juste à côté du centre de rétention, donc c'est très formel tout ça, mais qui serait une annexe aux mains du ministère de la Justice, dans laquelle seraient organisées les audiences, qui auraient pour effet, au grand espoir de la police aux frontières, de leur épargner les escortes et de libérer donc les fonctionnaires de police de ce travail de navette. Le problème, c'est qu'au-delà de cette organisation, on va dire, topographique de la salle d'audience, il faut que cette salle, elle soit équipée de façon conforme, il faut qu'il y ait un greffier normalement de part et d'autre pour attester de ce qui se passe en termes d'audience. Donc ça implique quand même des éléments de personnel judiciaire, de greffe, voilà. Pour l'instant, ce projet, il n'a pas l'air de voir le jour. C'est une rumeur récurrente, c'est une rumeur qui est rendu de plus en plus plausible par le fait que la loi avance vers la facilitation de l'organisation de ces audiences en visio sans le consentement de la personne, vers le fait que des permis de construire ou des projets d'acquisition de terrain ont été plus ou moins repérés, me semble-t-il, il y a quelque temps de ça, mais on n'a pas de nouvelles depuis. Ça me semble de toute façon être ce vers quoi la préfecture veut pousser, parce que c'est beaucoup plus facile pour elle, c'est des économies d'échelle, quoi. Mais ce qu'on constate, en tout cas ce que moi je constate avec un peu d'effroi, quoi, même si c'est sans grande surprise, c'est à quel point cette demande, elle semble aussi rencontrer un écho favorable auprès du personnel judiciaire. Dans l'idée de ne plus être dépendant des allées et venues des escortes, de pouvoir siéger tranquillement depuis son bureau. Et me semble-t-il, c'est des considérations pratico-pratiques qui ont l'air de rencontrer un certain enthousiasme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conscience de ce que ça peut impliquer en termes de dégradation de la qualité de justice, mais j'ai l'impression que le côté positif, avec des guillemets pour les acteurs judiciaires, est pas complètement négligé, quoi. Donc, on sait pas aujourd'hui où ça va. On sait que, en revanche, ce qu'on sait, c'est que de la visio a été clairement et massivement organisée pendant les périodes de Covid, hein, hors de tout cadre légal, en invoquant la question d'une situation de force majeure, quoi, d'urgence et d'impossibilité de fonctionner autrement. En dehors de l'hypothèse d'un arrêt de la justice et d'un arrêt des éloignements, ce qui aurait été un drame, oh mon Dieu, on a préféré, plutôt que de faire ces choix-là, d'organiser des visios avec des gens qui, en fait, étaient jugés, avec des dispositifs de vidéocommunication assez mauvais, dans un cadre policier de l'autre côté, puisque c'était la salle d'entretien pour les demandes d'asile, qui était utilisé au centre de rétention, mais qui n'est pas du tout une salle d'audience de justice. Bon. Puis ça pose des vraies questions pour les avocats, nous, de savoir où est-ce qu'on va, qui sont les mêmes questions que les pénalistes peuvent rencontrer, à savoir est-ce qu'on va aux côtés de la personne dans le lieu d'enfermement pour plaider, pour être avec elle, en soutien, ou est-ce qu'on plaide au tribunal pour être au plus proche du juge et avoir aussi un regard plus concret sur ce qui se passe à l'audience du côté du juge, en termes de... Parce qu'on n'entend pas tout, on n'entend pas tous les échanges entre la préfecture et le juge si on est dans un cadre de visio. Bon, où est-ce que va l'interprète ? Enfin, tout ça, c'est des questions que les pénalistes connaissent et que nous, on va peut-être être amenés à devoir aborder aussi.
Écoute, merci beaucoup, Benjamin.
Avec plaisir.
Je finirai juste en signalant que du coup, ces audiences se tiennent à Toulouse, en tout cas, tous les jours, le samedi et le dimanche compris,
oui,
au tribunal, à 10h, tous les matins. Et même le samedi et le dimanche, quand le tribunal est fermé, on peut sonner pour se faire ouvrir pour assister à l'audience. Voilà. Et bien, merci beaucoup. Et puis,
merci à toi. J'arrive. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
secrecy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are.
Comment rater l'avion ? Stratégie de résistance à l'expulsion, par Kunta Kinte. Je travaillais à vélo, je suis livreur. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai vu des policiers à un feu rouge sur la voie opposée. Quand le feu est passé au vert, leur voiture s'est mise derrière moi en mettant la sirène pour me rattraper. J'ai pas compris. Bonjour monsieur, contrôle d'identité. Pourquoi ? Parce que soi-disant je roulais avec des écouteurs. C'était faux. Je les avais autour du cou, mais pas moyen de me faire entendre. Arrêtez de négocier, vous n'allez quand même pas m'apprendre mon travail. Ils m'ont demandé si j'avais une pièce d'identité sur moi. J'ai dit non. Comme je savais que j'avais une OQTF, il valait mieux pas qu'on me reconnaisse. J'ai tenté un truc. Comme quelqu'un me prêtait ses papiers d'identité pour travailler, c'est son nom que j'ai donné. Là, ils m'ont demandé ma date de naissance. Et j'ai sorti une date au hasard. Quand ils m'ont demandé mon âge, j'ai dû réfléchir. J'ai mis un peu de temps. Ben monsieur, vous ne connaissez pas votre âge ? Et j'ai raté de peu. Ils ont fouillé mon sac. Malheureusement, le passeport du type dont j'utilisais le nom y était. Ils ont décidé de m'embarquer pour vérification. J'ai fini par leur donner mes vrais noms et prénoms. Au commissariat, ils ont découvert l'OQTF qui datait de 10 mois et ils m'ont placé en garde à vue. J'ai passé plus de 24 heures en garde à vue. Ils m'ont réveillée au moins 5 fois pendant la nuit pour me poser les mêmes questions. Ils ont pris mon ADN et une photo avec la pancarte à numéro, comme pour les criminels. Le matin, on m'a menottée et emmenée au CRA avec 4 policiers. Dans la voiture, celui qui était au volant a conduit comme un fou. On aurait dit qu'ils escortaient un grand criminel, à toute allure, prenant des contresens, roulant sur les voies de bus. Je ne comprenais pas trop. Quand on est arrivé au centre du bois de Vincennes, on m'a dit que j'allais y rester jusqu'à ce que tout soit mis en place pour que je sois renvoyée dans mon pays. J'étais plutôt énervée. Et puis, j'ai vu l'ambiance, et ça m'a rendue vite triste. Être là, enfermée, tournée en rond sans avoir rien à faire. Certaines personnes étaient devenues à moitié folles. On était 2 par chambre, les portes étaient numérotées. Ils allumaient et éteignaient la télé quand ça leur chantait. Tu as le choix. Soit tu dors, soit tu fais des allers-retours dans un couloir de 30 cm de large. Au bout de 48 heures, si tu n'as toujours pas été expulsé, ils te présentent devant un ou une juge pour décider si on te libère ou si on prolonge la rétention. Je me suis retrouvée devant la juge et lui ai dit que je travaillais, que j'étais intégrée. En plus, à ce moment-là, j'avais un récépissé encore valable. Ça veut dire que j'étais en même temps autorisée et pas autorisée à rester en France. Mais elle a quand même pris la décision de prolonger la rétention de 28 jours. Qu'est-ce que je pouvais y faire ? Sa parole suffisait à me condamner ou à me faire partir. Si au bout de 28 jours je n'avais pas été expulsée, je devais repasser devant un ou une juge. Si j'arrivais à tenir, j'avais une chance d'être libérée à ce moment-là. Mais tous les jours, il venait prendre au moins 9 personnes, et chaque soir, je me disais que le lendemain, ce serait moi. Heureusement, j'ai compris un peu le système. Quand tu arrives au centre, les gens t'expliquent ce qui se passe, comment tu peux faire si tu ne veux pas partir, comment faire annuler ton vol. Une association avec laquelle je suis en contact m'a aussi filé des tuyaux. À l'intérieur, ils affichent une liste avec les noms, les destinations et les jours des vols. 10 jours après mon arrivée, j'ai vu mon nom sur la liste. Je me suis dit que ça commençait à être chaud. Repartir sans rien alors que j'avais toute ma vie ici. J'ai réfléchi à toutes les possibilités pour sortir de là. Quand c'est ton premier vol, ils viennent te chercher dans la journée. Là, Si tu commences tout de suite à faire la force, on t'attache. À l'aéroport, un jeune maghrébin à côté de moi criait pour ne pas partir. Ils l'ont attaché directement de manière inhumaine. Je n'avais jamais vu ça. Une ceinture énorme autour du bassin qui retient aussi les bras. Attaché aux pieds et aux genoux. Il ne pouvait plus bouger. Pour te porter, il y en a un qui te prend par les pieds. L'autre, par le bassin. Le dernier, par la tête. Et voilà. Retourner dans son pays ligoté de cette manière, c'est plus que dur. Donc le jour prévu, quand ils sont venus me chercher, je suis restée tranquille. Si tu as l'air d'accord avec eux, ils ne te menottent pas. Ils t'accompagnent pour t'installer dans l'avion 40 minutes avant le décollage, et après ils te laissent. Une fois dedans, tu es seul, libre, tu peux crier. Mais si tu commences trop tôt, ils ont le temps de te faire descendre, de t'attacher et de te remonter. Alors il faut rester assis tranquille, attendre la dernière minute. Quand l'avion est plein, c'est là qu'il faut faire la force. 20 minutes avant le décollage, j'ai dit à l'hôtesse de l'air que je voulais parler au commandant et annuler mon vol. Elle a refusé. Je me suis levée, j'ai fait du remue-ménage, j'ai crié et je me suis dirigée vers la porte pour descendre. Paniquée, l'hôtesse a appelé les policiers. Ils sont montés, m'ont menottée et m'ont fait descendre de l'avion. À ce moment, ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent pas t'attacher ni te brutaliser devant les gens. Ils ne prendront pas ce risque. Ils m'ont dit « Tu verras la prochaine fois ». Tu ne auras pas de foi. Il n'y a pas eu de prochaine fois. Au centre, un Algérien ne mangeait pas et avalait des vis continuellement. Son estomac était rempli. Ils n'ont jamais réussi à lui faire prendre l'avion. Il allait tout le temps à l'hôpital. Un autre ami sénégalais a réussi à éviter plusieurs vols. Pour le premier, il a bu du shampoing et pris des comprimés juste avant le départ. Et il a dû être transféré à l'hôpital. Une fois soigné, ils ont essayé de le réexpédier tout de suite à l'aéroport, attaché et menotté. Il a cogné sa tête contre un mur. Ils ont encore dû le renvoyer à l'hôpital. Et il a raté l'avion. Mais ils ont fini par l'avoir. La veille de son dernier vol, il s'est planqué dans une autre chambre que la sienne et on l'a aidé à bloquer la porte pour qu'il ne l'attrape pas tout de suite. Il a profité du temps qu'ils ont mis à le dénicher pour se rendre malade avec des médicaments. Mais ils ont fini par le retrouver. Ils étaient 6 policiers pour lui attacher les pieds, les jambes, lui mettre la ceinture autour du bassin qui coince les bras et sur la tête, un genre de casque qui bloque la bouche pour empêcher de crier. C'est soit ça, soit du scotch et une cagoule. Ils l'ont renvoyé comme ça à Dakar. Quand tu refuses un vol une première fois, tu sais qu'une semaine après, maximum, un deuxième t'attend. Cette fois, pour t'empêcher de tenter quelque chose, ils n'affichent pas ton nom sur la liste des vols. On te tombe dessus à 4 ou 5 heures du matin, et on t'amène de force à l'aéroport. Il venait très tôt, comme ça. Et quoi que tu fasses, avaler des comprimés, boire du shampoing, te tailler les veines, te blesser, ils avaient le temps de gérer le problème et de te faire monter dans l'avion. On appelle ça le vol caché. Quand il venait la nuit chercher des gens pour l'aéroport, il y en avait plein qui ne dormaient pas. Moi-même, je ne dormais jamais avant 5 heures du matin. Certains étaient assis dans le couloir. Dès que les policiers débarquaient, ils criaient « Vol caché, vol caché, vol caché !» Quand on entendait ça, on sortait tous de notre chambre et on se mettait à crier. Les policiers s'énervaient, ils nous demandaient de rentrer, ils étaient débordés. Même quand ils venaient pour un contrôle de routine, on leur demandait « Vol caché ?» Ça les rendait fous. Ils avaient la rage, ils ne te répondaient même pas. Pour mon deuxième vol, pile une semaine après le premier, on est venu me chercher au milieu de la nuit. Au moment de partir à l'aéroport, ils mettent tous nos effets personnels dans un sac qu'ils ne te restituent qu'une fois dans l'avion. Je me suis laissé faire, mais j'ai planqué mon téléphone. Ils m'ont mis dans une fourgonnette inqualifiable, pleine de cages. On était là-dedans comme des chiens, on n'y voyait rien. On sentait juste le mouvement de la voiture. On est arrivé très en avance à l'aéroport, à 6 heures du matin. Je suis restée calme et j'ai appelé discrètement mon avocate. En apprenant la situation, elle a immédiatement déposé un recours au tribunal administratif. J'ai aussi appelé une amie qui a reconstitué mon dossier médical avec des rapports rédigés par plusieurs médecins, dont celui du CRA, qui me contre-indiquait de prendre l'avion au risque de dégrader irréversiblement mon audition. Elle est aussi allée à l'ambassade faire annuler mon laissez-passer. L'expulsion est devenue illégale et mon avocate les a harcelés jusqu'à ce qu'ils fassent machine arrière et qu'ils me ramènent au centre. Quelques jours après, ils avaient déjà réservé un autre vol pour moi. mais au 30e jour de ma détention, j'ai été présentée de nouveau devant un juge. Il fallait vraiment justifier le fait d'avoir refusé les deux vols. C'est mon dossier médical qui les a convaincus de me libérer. Je suis enfin sortie de là.
Je signale au passage que vu que ça ne logeait pas tout à fait dans l'émission, on a légèrement raccourci ce texte, mais qu'on peut lire dans son intégralité dans Course à pied, le numéro 5 de la revue Jeff Clack. Et voilà, c'est la fin de cette émission et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission de Tapage. Au revoir.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-do-da, do-do-di-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-do-da, do-do-di-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-do-da, do-do-di-da-di-do-da. Da, do do da, di da, do do di da, di da.